Bonjour à tous. Alors, on va se présenter rapidement et pour la conférence, pour être sûr que vous êtes bien là pour la bonne chose, sur démystifier l'intrapreneuriat et le corporate hacking. On va commencer par le grand classique, remercier tous les sponsors qui permettent que l'événement existe. On ne va pas les citer un par un, sinon on n'aura jamais le temps de discuter pendant une heure, mais ils sont tous là, à peu près. On va commencer par se présenter très brièvement. Donc, je m'appelle Olivier, j'ai travaillé quelques années dans un cabinet de conseil sur différents sujets, de l'IT à l'innovation managériale, à comment créer des programmes d'open innovation dans des entreprises de différentes tailles. Parfois, c'est juste de l'intelligence collective dans des petites équipes. Parfois, c'est comment déployer quelque chose d'une plus grande échelle.
Et donc, Johan Soutier, donc moi j'ai travaillé pendant plusieurs années dans un grand groupe. Donc on va y revenir, mais c'est justement des notions dans les grands groupes où ça s'est développé dans les grands groupes et c'est des notions qui ne sont pas faciles à mettre en place. Donc, alors le micro n'est pas très pratique. Donc du coup, ce que je dis, c'est que j'ai travaillé plusieurs années sur des projets d'innovation dans des grands groupes. Et aujourd'hui en charge de mettre en place des ateliers de management et récemment intégré du coup, l'association des activateurs qui, on va vous en parler un peu plus en détail.
C'est ça. Donc, en fait, aujourd'hui, on vient en tant qu'activateur. Les activateurs, c'est une association qui vise à promouvoir, entre autres, l'intelligence collective, le corporate hacking, et l'intrapreneuriat, mais on en parlera un petit peu plus tard de l'association. La première chose qu'on va essayer de faire, c'est, dans un temps très court, d'une heure, se créer en fait une base commune de définition, parce que c'est des termes qui sont très utilisés, très galvaudés, qui sont synonymes de parfois tout et rien. C'est un peu comme la transformation digitale, on met tout dedans, mais si on demande une définition concrète à quelqu'un, des fois ça peine un peu à sortir. Et en fait, plutôt que de faire ça de manière, entre guillemets, magistrale, en arrivant, en vous donnant notre définition, parce qu'on sait tout et parce qu'on a réfléchi à tout, ce qu'on va essayer de faire, c'est de créer un petit échange avec vous tous, avec différents temps, pour, ensemble, à, je n'ai pas compté, mais 90, en théorie, arriver à une définition, ou au moins à éclaircir ces différents termes. Notre promesse, ce n'est pas de vous donner, entre guillemets, un manuel sur ces trois termes dans l'heure, mais au moins qu'on en ait parlé, qu'on les ait démystifiés, qu'on ait clarifié ce qu'il y a derrière chacun des termes. Et ce qu'on vous propose, c'est tout de suite de commencer par l'intelligence collective, qui est peut-être le terme des trois le plus facile d'accès. Et pour ça, ce qu'on vous propose, c'est d'échanger avec votre voisin pendant 2-3 minutes sur qu'est-ce que c'est l'intelligence collective en vous présentant. C'est-à-dire vous donner globalement votre nom, votre prénom, ce que vous avez fait, ce que vous faites en deux phrases, et surtout pour vous, l'intelligence collective, c'est... Et compléter cette phrase. Je vous laisse 2 minutes. N'hésitez pas à vous mettre ensemble. Si vous avez le choix entre deux voisins, dont un que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à choisir celui-là. On vous laisse encore 30 secondes. Ok. Je vais vous demander de revenir vers nous maintenant. Je vous laisse finir votre dernière phrase. Merci. Maintenant, ce que je vous propose, c'est... ceux qui se sentent, j'espère qu'il y en aura quelques-uns, nous donnent quelques éléments qui sont sortis pendant la discussion sur qu'est-ce que l'intelligence collective. Est-ce que quelqu'un veut se risquer à être le premier à parler? Le ou la première?
Eh. Je vais juste dire une expression, 1 plus 1 égale 3.
Ok, content de ne pas l'avoir mis juste après, parce que c'est effectivement 1 plus 1 égale 3. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ou est-ce que quelqu'un d'autre peut contribuer?
Et donc l'intelligence collective, c'est créer un cadre pour arriver à formuler des idées, créer des idées un peu imprévues. On ne sait pas vers quoi ça va aller.
Ok. On ne sait pas vers quoi ça va aller, créer un cadre. Est-ce que quelqu'un d'autre a un élément ou deux?
une des choses qui participe à la notion d'intelligence collective, c'est quand on considère l'équipe comme quelque chose en soi, indépendamment des membres qui la constituent.
Donc une notion de groupe.
Dans l'intelligence collective, il y a la notion de co-construction, c'est-à-dire mettre en regrouper les idées.
Vas-y, je te laisse finir.
Regrouper les idées de chacun dans le but de réaliser un projet commun.
Ouais. Donc il y a la notion de projet commun, un but commun à un groupe de personnes dans un cadre plus ou moins défini, dont on n'est pas sûr du résultat, mais dans lequel on va avancer. Je reprends quelques éléments qui ont été dits. Avec la fameuse équation 1 plus 1 égale 3. Est-ce que quelqu'un d'autre ?
J'avais envie d'ajouter l'idée du lâcher prise de la direction. Parce que tout à l'heure, plusieurs personnes ont dit on ne sait pas vers quoi on va aller. Si le cadre il est important, la vision elle est importante, mais effectivement lâcher prise de la direction, parce que c'est le résultat de l'intelligence collective normalement qui doit primer pour que ça puisse fonctionner.
Je vais te poser une petite question. Uniquement de la direction ?
Du lâcher prise ?
Ouais.
Non, du management en général peut-être.
Je sais pas. Moi je suis juste là pour vous embêter,
oui,
hein, pour ceux qui n'ont pas encore remarqué. Ok, merci. On serait à Toulouse, je l'aurais lancé directement, mais là...
C'est peut-être se mettre d'accord aussi sur les règles, les guides de bonne conduite, de gestion, de présentation des problèmes, de résolution des problèmes.
Ouais. Si je résume ça en quelques mots, avoir une base de communication commune. Quelqu'un d'autre ? Je me suis vraiment mis du mauvais côté.
Aussi, c'est juste pour rebondir sur le 1 plus 1 égale 3, c'est aussi la notion de diversité des participants de l'intelligence collective. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion, finalement, je dirais, de tout le monde peut apporter sa pierre à l'intelligence collective, et non pas en regard de sa position dans la... Dans l'entreprise, son niveau d'études, etc.
Merci. Et dans ce que tu as dit, en fait, il y a deux choses. Il y a la position, entre guillemets, au sens hiérarchique, et la position, le rôle en tant qu'expert ou non-expert. Entre guillemets, je suis l'expert sur le sujet, donc c'est moi qui suis censé avoir la meilleure solution. Alors que parfois, pas du tout. Merci pour tous ces éléments. Là, on va vous donner quelques éléments qu'on a trouvés, quelques définitions. Et on retrouve, enfin, ce que vous avez dit est plus complet que les quelques mots qu'on a mis là, et c'est justement le but de vous faire parler. C'est quelque chose qu'on va répéter sur les différents termes, parce qu'on pense que c'est, bon, inspiré de l'intelligence collective, c'est grâce à tous nos cerveaux qu'on va créer quelque chose de meilleur qu'une définition de quelques lignes. Donc en fait, l'intelligence collective, c'est un processus, donc on retrouve la notion de cadre, qui permet à un groupe d'appréhender l'ensemble des dimensions d'un problème complexe dans le temps et dans l'espace pour déboucher sur une décision. Donc on retrouve la notion de projet, d'arriver à quelque chose de concret, la notion de groupe. Et si on prend un autre élément, enfin une autre idée un petit peu plus poétique, c'est l'intelligence collective est l'art de maximiser simultanément la liberté créatrice et l'efficacité collaborative. Pour vous donner un exemple concret, dans mon entreprise, ce qu'on a fait avec la fondation, c'est qu'on a créé des ateliers d'intelligence collective pour résoudre des problèmes d'associations. Donc des associations ou des initiatives à impact positif sur tout ce qui est social et solidaire. Et par exemple, on s'est retrouvé en face d'une école. Et quand on est en face d'une école, il n'y a pas d'experts. Mais autour de la table, on avait, issus de l'entreprise, des avocats, enfin, deux avocats, des RH, des marketeurs, des consultants, des auditeurs. Et on avait toutes ces personnalités-là qui avaient des angles d'attaque très différents. Moi, entre guillemets, j'étais dans le groupe des consultants. Et je me suis rendu compte que les autres ne pensaient pas comme moi. Et que ce n'était pas un problème. C'était justement ce qui permettait d'attaquer le problème par un angle différent. Et en fait, c'est toute cette richesse individuelle qu'on va chercher à mettre à profit dans l'intelligence collective.
Juste pour ajouter finalement ce qu'on fait là, pardon,
en donnant la parole un petit peu à tout le monde, on est dans l'intelligence collective, dans le fait de pouvoir construire une réponse à une question collectivement. Pardon. Et c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans le cadre, on en parlera un petit peu dans la présentation de l'association, mais une des bases des fonctions de l'association, c'est vraiment de se retrouver et faire ce qu'on appelle aujourd'hui du co-développement. Alors je pense que certains d'entre vous connaissent. C'est un outil qui est assez intéressant, qui permet en fait, donc sans intérêt premier, sans intérêt pour une entreprise en particulier, de venir avec une problématique, un problème qu'on peut avoir en personnel, professionnel, sur des projets. Et du coup, dans le cadre de l'association, donc on a des profils divers et variés, des entrepreneurs, des corporates, enfin de tout type. Et donc, dans le cadre des afterwork, on va prendre le problème et dans une phase de co-développement avec une méthodologie qui est donnée, se positionner en tant que client de la problématique et donc d'essayer d'apporter un regard neuf, extérieur, et donc de co-construire avec la personne en question, la solution et le plan d'action qui va être associé. Donc sans intérêt premier, avec on parlait tout à l'heure de multi-compétences, je pense que l'idée du collectif, c'est vraiment ça, c'est de réussir aujourd'hui à avoir des profils qui soient ingénieurs, techniciens, BTS, dans l'idée de répondre à une problématique commune. C'est des choses qu'on voit beaucoup apparaître aujourd'hui dans des... c'est pour ça qu'on a dans ce développement, dans tout ce qui va être les concours, les hackathons, les start-up week-ends, on a cette notion de construire ensemble. Alors sur un mot qui est aussi... qu'on a beaucoup entendu parler, je ne sais pas si vous avez beaucoup entendu parler, ça va être ce qu'on va pouvoir vous demander. Dans la même lignée que l'intelligence collective, l'intrapreneuriat ou être intrapreneur, pour vous, c'est quoi ? On va vous laisser aussi 2 minutes dans la même lignée pour échanger avec votre voisin, savoir quelle est votre définition, si vous avez une expérience. Peut-être ce sera moins facile que l'intelligence collective, mais c'est... voilà.
Ça fait partie. Et si vous bloquez un petit peu sur le terme d'intrapreneur ou d'intrapreneuriat, n'hésitez pas à vous dire qu'est-ce que cela n'est pas. Ça peut aider la réflexion en commençant par border le sujet. On vous laisse 2-3 minutes.
On dit combien, 21 ?
On clôture vers 21-22.
On vous laisse encore une petite minute.
Et essayez de penser, pareil, parce qu'on va vous passer le micro juste après, à 2-3 éléments qui sont de l'intrapreneuriat ou qui font partie d'un rôle d'intrapreneur, et à 2-3 éléments qui n'en sont pas.
Ok. On va reprendre l'exercice. A priori, c'est pas mal. Hein. Du coup, il y a pas mal d'échanges. Je trouve ça assez intéressant quand même comment vous prenez bien l'échange. La preuve en est.
On est super content que vous preniez très bien l'échange. Maintenant, on va essayer nous aussi de le reprendre un peu.
C'est quelque chose qu'on n'avait pas fait à 90 personnes et c'est des choses qu'on fait en général à plus petits groupes qui permet d'avoir de l'échange. Donc ça, qu'à 90, c'est assez nouveau. Du coup, dans le même exercice que l'intelligence collective, est-ce qu'il y a quelques mots pour vous qui ressortent, des personnes qui sont prêtes à dire un peu l'intrapreneuriat et quelques mots clés, ce que ça représente ?
Je vais mettre le micro.
Je vais répondre par une question. Nous, on s'était posé la question, c'était plus de l'innovation au sein de l'entreprise, c'est-à-dire donner aux collaborateurs la possibilité d'innover au sein de leur propre entreprise. Et on en discutait aussi de savoir est-ce que c'est pas non plus d'être sa propre entreprise au sein de l'entreprise, être dans sa boutique, entre guillemets.
Pour rebondir sur ce que tu as dit, qu'est-ce que tu entends par ta propre entreprise au sein de ton entreprise ?
Nous, c'est particulier parce que nous, on est dans une banque en fait, et on se demande par exemple que chaque agence est dans sa propre mini entreprise comme franchisé entre guillemets.
D'accord.
Ou son service, etc.
Ok.
Je rebondis sur l'entreprise dans l'entreprise, l'intrapreneuriat. Il y a effectivement une notion de
collaborateur unique ou multiple qui a une idée, souhaite la développer et crée au sein de son entreprise le centre, la cellule projet et l'entreprise, elle, a obligation de mettre en place la ressource, les moyens pour que cette idée devienne projet. Donc c'est véritablement la notion d'entreprise dans l'entreprise où chacun peut entreprendre, développer un projet.
Ouais. Alors, il y a beaucoup d'éléments dans la réponse là. Il y a effectivement l'entrepreneur dans l'entreprise. Il y a aussi effectivement d'avoir la possibilité de travailler sur ses projets. Et les moyens qui soient donnés par la direction. Enfin, il y a vraiment trois points clés là qui viennent de ressortir.
Et je rajoute même quelque chose. Quand on dit que l'entreprise donne les moyens, ça veut dire implicitement qu'elle l'approuve, qu'elle valide entre guillemets l'intrapreneur.
Ouais, j'arrive. On prend deux derniers.
L'intrapreneur ou l'intrapreneuriat, c'est en fait une règle de soumission. Juste de soumission, parce qu'autrement, on risque, si on n'est pas dans la ligne directrice de la stratégie, d'être un extrapreneur, du coup.
Alors, pouvoir donner... Non, mais...
Alors, spoiler alert, je suis un peu salaud des fois, donc juste avant de te passer métro, mais c'est quoi un extrapreneur ? Ouais.
C'est un mec qui s'est fait virer.
Ok.
Pour cause de bonnes idées.
Je pourrais donner un exemple là-dessus dans pas longtemps, éventuellement.
Je t'en prie.
Nous, le mot-clé qui est ressorti, c'est que c'était un raccourci, en fait. Prendre un raccourci pour faire évoluer l'organisation de manière plus rapidement. Quoi.
Faire plus rapidement au niveau individuel ou au niveau de l'organisation ? C'est pour que l'organisation fasse plus rapidement ou c'est pour que l'intrapreneur fasse plus rapidement ?
Pour que l'intrapreneur fasse plus rapidement, mais ça a des impacts sur l'organisation. Donc,
je sais pas.
Moi, je voyais comme ça.
Okay. En tout cas,
pour moi, c'est un raccourci.
Merci. En marge un peu de ce qui s'est dit, je crois que l'existence même du terme entrepreneur signe souvent une insatisfaction terrible vis-à-vis de l'entreprise elle-même, et donc la volonté d'essayer de trouver d'autres voies qui souvent se concrétisent par une tarte à la crème qui, dans la pratique, a très rarement réussi. Il y a quelques très très beaux exemples, mais qui se sont passés avec des conditions très particulières qui sont reproductibles mais compliquées à reproduire. Donc là, tu me dis, vas-y, donne-moi un exemple.
Non. Mais juste après. Non, c'est... En fait, non, mon petit rictus de scepticisme, c'est le reproductible. Je pense que les choses, on peut s'en inspirer, mais d'un contexte, d'une entreprise à l'autre. Si je prends deux entreprises complètement différentes, une banque, par exemple, a une culture de base complètement différente d'une entreprise dans le B2C, dans le retail. Enfin, si on prend, je vais peut-être pas citer de nom pour les banques, mais une banque, je vous laisse la choisir, et Decathlon, on part pas du même état d'esprit. Mais on peut en parler juste après. Je te laisse le mot.
Oui, nous, on s'était juste posé une question annexe. On se demandait, annexe, ça n'a pas de rapport avec les remarques précédentes, mais s'il y avait un rapport entre l'intrapreneur et une notion de marché ou de besoin. Ou pas. Mais ça, c'est parce qu'on ne sait pas très bien ce que c'est qu'un intrapreneur.
Non, on va.
Vas-y. Ouais, pas tout de suite.
Non, je vais pas y répondre. C'est juste que. Enfin...
Si quelqu'un a envie de répondre à sa question, n'hésitez pas, parce que nous, on ne sait pas.
Moi, je voulais juste rajouter, est-ce que finalement l'intrapreneuriat, c'est pas déjà juste un état d'esprit de chaque collaborateur d'une entreprise ? C'est une question. Hein.
Ah, je sais pas. Hein. C'est vous qui savez.
Un dernier.
Mais ce qu'il y a de bien, en fait, ce que je remarque, c'est que quand je vous écoute et quand je vois les différents éléments, je me dis qu'on se trompe plutôt pas trop avec ce qu'il y a après. Ça me fait plaisir.
L'intrapreneur, c'est peut-être celui qui participe tout simplement à l'intelligence collective, avec tout ce qu'on a dit juste avant. Mm-hmm. La liberté créatrice, notamment, j'ai noté ça, l'efficacité collaborative, donc c'est certainement pas quelqu'un qui est seul, qui décide seul ou qui fait seul.
Ok, donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments. Une dernière.
C'est encore une question. Est-ce que Gaston Lagaffe est un intrapreneur ?
Oh là là.
C'est un mec qui a quand même inventé l'airbag hein, au départ.
Alors, on va pas faire un teaser sur la présentation, mais il est dedans.
Ah si, non mais je résiste pas. Je peux pas, je ne peux pas résister.
On
là
le mettra,
d'un coup.
On le mettra après.
Je ne peux pas résister. Voilà, mais vous n'avez rien vu, bien sûr.
Mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas. Enfin, on peut mettre du coup la définition, ce qu'on en a, on en propose.
Attends, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre en 30 secondes?
C'est pour avancer.
On y va.
On est parti. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de mots qui ressortent et de notions, comme on peut l'avoir sur l'intelligence collective. Nous, on en a pris une première. Aujourd'hui, c'est par exemple un entrepreneur, c'est un employé. Donc effectivement, on va retrouver le côté dans une entreprise, à qui on a donné la liberté financière et le support pour créer de nouveaux produits et services. Donc on retrouve quand même l'alignement avec les besoins de l'entreprise. Et un cadre qui n'est pas dans l'habitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les projets sur lesquels il va travailler, ce n'est pas le business as usual. C'est-à-dire qu'il ne va pas travailler sur les activités récurrentes et les projets d'entreprise qui vivent de l'entreprise. C'est-à-dire, autrement dit, là, on va retrouver les mots-clés. C'est l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui évolue dans une entreprise à qui on va donner à un moment donné la liberté de travailler sur des projets qui sont différents de ses projets habituels. Voilà.
Tu veux compléter ?
Et un autre élément qui apparaît dans cette définition, c'est pour répondre à ce que tu disais, c'est dans le but de créer une valeur ou un nouveau marché ou un nouveau produit ou un nouveau service, mais entre guillemets pour l'extérieur, donc qui va être vendu. Et c'est là où on se rapproche vraiment de l'entrepreneur. Je vais être caricatural, quelqu'un qui va changer un processus au sein de son entreprise qui permet d'être plus efficace, ce n'est pas un entrepreneur si on suit cette définition.
Merci. La définition de Branson, pour moi, elle pose un problème, c'est qu'elle définit bien en quoi l'entrepreneur a intérêt à se séparer de l'entreprise et ne définir en rien en quoi l'entreprise reste intéressante pour l'aventure entrepreneuriale. Et c'est-à-dire que là, on pourrait dire qu'elle ne sert à rien, donc autant qu'il parte.
Ouais, on a une autre définition et puis après je vais répondre parce que je l'ai pas, enfin elle est en backup, on peut en parler, mais enfin c'est un peu ma vision de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que aujourd'hui pour moi, pour répondre à ça, et moi j'ai vécu une expérience intrapreneuriale par le passé, c'est que du coup moi je mets deux cases. Donc c'est vrai qu'on aurait pu la faire de façon animée, mais aujourd'hui on va voir l'entrepreneur, on le positionne quand même sur un environnement où la sécurité est assez faible, mais la liberté est assez forte dans les décisions, dans le marché qu'il va attaquer. Par contre, sur la partie salarié, on va avoir une sécurité, donc un cadre qui est plutôt rassurant. Sécurité, mais c'est aussi le côté rassurant. Mais une liberté qui est faible. Et finalement, pour moi, l'entrepreneur, il se positionne entre les deux. C'est-à-dire qu'après, un entrepreneur qui va avoir une... L'intrapreneur. Quelqu'un qui va être intrapreneur, mais qui va avoir une liberté très faible, il va être un peu malheureux. Donc en général, c'est des intrapreneurs qui finissent par... ou à contre-courant par rapport à leur manager. Donc derrière, à un moment donné, y a le désaccord, donc soit il y a du licenciement, soit il part par lui-même. Moi, j'ai beaucoup d'expérience, enfin, même dans le cadre de l'association, hein, des personnes qui sont parties. Soit on est dans un cadre, et donc l'entreprise a su effectivement définir les bonnes méthodologies, donc mettre ça en place dans l'organisation, c'est-à-dire qu'il y a un consensus. L'entrepreneur travaille donc, à travers de ses idées, à travers ses volontés, à travers son projet, ce qui le motive, mais travaille quelque part dans le sens de l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise y trouve aussi un intérêt, à un moment donné, dans toutes les idées qui sont mises en place, pour son business, pour attaquer un nouveau marché, pour développer de nouveaux services. On a une autre définition, parce que l'entrepreneur, c'est aussi la personne qui agit en entrepreneur en développant dans une grande entreprise un projet innovant sans y être autorisé.
Je crois que c'était ta définition qui disait que c'était avant tout un état d'esprit.
Et c'est effectivement avant tout un état d'esprit, l'entrepreneur. Je pense qu'on en est tous convaincus, en tout cas ceux qui travaillent et ceux qui font partie de l'association. Après, il y a aussi...
J'ai un nom en banque. Hein. Je ne peux pas dénoncer, mais j'ai un nom en
banque. On se pose la question, pourquoi vous avez une grosse voix?
Oui, mais la caméra n'a pas de grosse voix.
Pourquoi sans y être autorisé? Nous, au sein de notre entreprise, il promeut l'intrapreneuriat, pas tout le monde, mais ils sont autorisés.
Je ne sais pas si tu as...
Je t'entends pas.
C'est de la motivation autour d'objectifs, mais les façons de travailler sont définies par la banque. Vous n'avez pas inventé un nouveau produit financier. Si. Oui. C'est vous les junk bonds, tout ça.
Un exemple donc au sein de notre entreprise, c'était qu'ils ont créé un nouveau produit ou un nouveau service vers les Anglais qui travaillent en France. C'est, on va dire, une agence qui s'appelle Britline, et ça a été créé de l'intérieur pour offrir un nouveau service avec des Anglais qui vivent en France pour parler de la banque française, mais en langue anglaise. Donc, c'est pas... ça participe au business, mais je veux dire, c'était une idée innovante d'un nouveau produit. Après, on a plein d'autres choses, mais... autorisé.
Et juste par oui ou par non, est-ce que vous auriez pu créer une nouvelle solution d'engrais ?
Non.
Donc il y a vraiment une question un peu d'autorisation au sein de l'entreprise. Parce qu'après, il y a des entreprises, il y a différents niveaux d'acceptation. Il y a des entreprises qui vont accepter de faire des choses complètement différentes et de dire, ok, au pire, on créera une nouvelle filière, une nouvelle entreprise, quelque chose de complètement nouveau. Parfois, c'est quelque chose qui va être rattaché au business historique, au core model, et qui va le réinventer, le réutiliser ou l'améliorer. Et parfois, ça va être vraiment refaire ce qu'on fait actuellement de meilleure manière.
En effet, je voudrais ajouter que certains établissements publics, dont un qu'on connaît, qu'on côtoie quotidiennement, qui est La Poste, est en train de réfléchir pour lancer un projet en interne, un lancement de projet, un appel à projet pour ses collaborateurs d'intrapreneuriat, de manière à réfléchir et aller favoriser l'émergence de certains axes de développement pour cet établissement. Donc on peut aussi avoir des établissements ou des chefs d'entreprise qui gardent leur vision stratégique, mais qui favorisent l'intrapreneuriat.
Merci.
J'arrive.
Du coup, plutôt une question. Quelle serait la différence entre intrapreneuriat et innovation dans l'entreprise ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est de l'innovation par les salariés classiques et, enfin, qu'est-ce qu'un salarié classique qui fait l'intrapreneuriat, de l'innovation, pardon, et un intrapreneur ?
Je ne sais pas. Quelqu'un veut se risquer ? En vrai, j'ai une idée et elle est comprise dans la définition là-bas.
Et justement, pour rebondir sur les trois remarques-là, entre la banque et la poste, etc., est-ce que ce n'est pas juste un nouveau département et des gens qui sont embauchés pour faire un nouveau département avec des choses, et que l'entrepreneuriat, justement, c'est quelque chose qui est un peu borderline et qui doit pas... Là, c'est juste des gens qui sont embauchés pour un nouveau département, au final. Et c'est juste qu'on met le terme entrepreneuriat pour faire peut-être venir plus de gens. Mais en quoi c'est l'entrepreneuriat et c'est pas l'ouverture d'un nouveau département avec un nouveau produit ?
Alors, sur la question de pourquoi c'est de l'intrapreneuriat, pour moi, la différence, c'est que l'intrapreneur vient de l'intérieur. Il n'est pas recruté pour développer un nouveau business. Ah oui, mais ça reste dans l'entreprise.
Il y a quelqu'un qui...
Moi, je voulais juste rebondir, justement, sur le fait qu'il faut que la personne vienne de l'entreprise pour connaître... un peu le processus de bout en bout, justement, pour pouvoir faire évoluer l'ensemble du processus en accord avec l'histoire d'entreprise, quoi. Et que ça aille bien dans la direction d'entreprise.
Alors, au passage, je vais juste répéter un mot que j'ai entendu par là, c'est pour pouvoir mieux le détourner. Ça, on va peut-être en parler dans quelques secondes.
Je pense quand même, quand on posait la question de la différence entre innovation et intrapreneur ou même entrepreneur, je pense qu'une des distinctions principales, c'est quand même l'histoire de la vision marché. C'est-à-dire qu'on peut faire des innovations, mais qui ne servent à rien. Alors que j'ai le sentiment qu'un intrapreneur, il poursuit un marché quand même derrière.
Donc voilà, c'est ce que je pensais dans la définition là-bas, c'est qu'on a vraiment la question de répondre à un besoin et un marché. Et pour moi, l'innovation, c'est plus large que ça. C'est pour moi, l'innovation, ça peut être... de l'innovation managériale, ça peut être, je vais être caricatural, dans une entreprise qui fonctionne qu'en papier, amener un ordinateur, c'est une innovation. Parce que dans le contexte de l'entreprise, c'est quelque chose de nouveau, de différent, qui permet de fonctionner différemment.
Ouais. Je voulais compléter en donnant des exemples en vécu. C'est que dans le côté innovation, on peut innover tous les jours, et on peut quand même, l'entreprise peut quand même développer cette notion de créativité, je vais l'appeler comme ça, ou innovation participative, qu'on parle beaucoup,
qui rejoint un peu le côté intelligence collective, c'est de demander finalement à tout le monde, dans le cadre d'un processus, de remonter des idées. Mais ça va être des idées d'amélioration du quotidien, créer une fiche Excel parce que du coup on fait tout à la main, ou développer un petit produit pour améliorer les idées des opérateurs. Ça, c'est de l'innovation quotidienne que tout le monde peut faire. On n'en est pas, c'est pas pour ça qu'on est intrapreneur. Par contre, des exemples d'intrapreneuriat, il y en a, et je prends toujours l'exemple de Kodak parce que je trouve ça assez intéressant, où finalement l'entreprise était assez butée sur son marché de développement de pellicules, et c'est ça qui faisait vivre l'entreprise, était un petit peu quand même très partagée et très... voulait développer, savait qu'il fallait le faire, ne savait pas trop pourquoi, mais savait le faire, donc elle avait mis des personnes qui travaillaient sur une nouvelle innovation. Par contre, finalement, dès que les nouvelles idées arrivaient, finalement, elles n'étaient jamais retenues parce que jamais plus rentables que ce qui était déjà très rentable, qui était les pellicules. En même temps, lancer un nouveau marché demande de toute façon du temps avant d'être mature et un peu d'investissement. C'est du coup les personnes qui étaient à la limite entre les deux, il y en a beaucoup qui sont parties. Parce qu'on leur a dit, ton idée, elle est bien, mais on ne la fera jamais. Si tu veux, pars avec les brevets et monte ta boîte. Et en fait, ils l'ont fait. Et il y en a aujourd'hui qui sont plutôt dans une bonne phase, alors que Kodak est plutôt dans une phase un petit peu compliquée. Mais une autre aussi, c'est des exemples d'entreprises que j'ai également vécu, c'est l'intrapreneur, c'est pas forcément l'ingénieur, c'est pas forcément les personnes qui font du bureau d'études et qui développent de nouveaux produits dans le cadre de développer ou d'accéder à un marché. Je prends des exemples, c'est du vécu, c'est des entrepreneurs. Alors, il y a l'entreprise qui favorisait, c'est vrai, mais c'était de se dire, justement, on met un cadre où on favorise la remontée des idées, qu'elles soient d'un opérateur, d'un technicien, d'un ingénieur, peu importe. Ils remontent ça à leur chef, ils remontent ça à un référent, voilà. Et finalement, tous les ans, il y a ces projets-là qui sont... Alors, ça prend un quart d'heure, on met l'affiche, on dit l'idée. Il y a un jury qui sélectionne, du coup, dans ces projets-là. Et suivant les projets, donc il y a quand même des critères d'orientation, parce qu'on se dit l'entreprise pourrait demain aller sur ce marché-là, ou ça pourrait être intéressant, vont à un moment donné être détachés de leur boulot, vont travailler pendant quelques mois. Donc là, on revient sur la définition, la première, c'est on leur donne des moyens, on leur donne le cadre, on leur donne du temps. Mais du coup, l'opérateur qui aurait pu avoir cette idée-là vient dans l'équipe et travaille dessus pendant 3 mois, 4 mois, enfin voilà, c'est un accord, pour développer le projet et aller faire ce qu'on va appeler dans le cadre des innovations, donc on n'en parlera pas aujourd'hui, mais tout ce qui va être le MVP, un proof of concept, donc aller jusqu'au proof of concept pour montrer que ça marche.
Un produit minimal, entre guillemets, achetable par un client.
Ce qui permet de convaincre. Et là, on est vraiment dans l'intrapreneuriat, on favorise l'intrapreneuriat. C'est-à-dire que là, l'intrapreneuriat, à un moment donné, il émet des idées, donc il est reconnu, il a son cadre, mais c'est ponctuel. Donc il devient entrepreneur ponctuellement. Et après, en général, du coup, quand c'est des produits qui vraiment atteignent leur cible, MVP convaincant et ça marche, en général, on développe une unité et là, on développe une cellule de R&D et on grève des gens, quoi. Voilà.
Deux petits éléments. Le premier, c'est qu'on a dit à un moment que ça marche pas toujours, il y a beaucoup d'échecs, mais concrètement, créer un nouveau produit ou un nouveau service, ça marche pas toujours. Oui, c'est évident, mais il vaut mieux le dire. Et pour démystifier un peu la chose, un chiffre extrêmement simple. Il y a 4% des projets intrapreneurs ou entrepreneurs qui sont rentables. Quand je dis rentables, ce n'est pas forcément qu'ils génèrent des millions et une rentabilité monumentale, mais ça veut dire juste qu'ils dépassent leurs coûts. Ça veut dire qu'ils arrivent à retomber sur leurs pas et à être à l'équilibre. C'est un chiffre qui est issu de tout ce qui est Lean Startup où il y a eu énormément de projets. Et la question, en fait, ce n'est pas comment je fais en sorte pour grossir ce chiffre. Parce qu'il y a plein d'embûches, il y a plein de choses qui sont nécessaires, notamment l'expérimentation, expérimenter au fur et à mesure. La question, c'est plus à quel moment j'arrête un projet pour donner plus de poids à un autre. Parce qu'on ne peut pas développer une idée et l'expérimenter sur 10 ans. La question, c'est peut-être se dire de mettre des gateways, des portes ou des tables de passage en se disant tous les 3 mois ou tous les 6 mois, on en est où de nos expérimentations? Est-ce que c'est suffisamment probant pour réinvestir 6 mois? Enfin, du temps, de l'argent, bref, des ressources, ou est-ce qu'on doit passer et se refocaliser sur d'autres projets et donner sa chance à d'autres projets. Je vais revenir sur un autre élément, la question de l'extrapreneur, donc entre guillemets, l'intrapreneur. Alors, extrapreneur, moi, je lui donne encore un autre sens, mais je ne vais pas venir dessus. Mais c'est la question de l'intrapreneur qui a quitté son entreprise. Je vais prendre un très bel exemple. Il est public, donc on peut y aller. Issu de Thales. C'est un groupe au sein de Thales, il y a en 2014-15, qui avait comme ambition de redonner le droit d'innover à l'ensemble des équipes. Donc c'était sur de l'innovation participative, c'était sur comment faire ressortir les idées. Ils ont commencé très simplement avec un équivalent de TED Talk, où en gros,
les collaborateurs venaient pitcher leurs projets. Il y avait quelques coachs, toujours ici de l'équipe interne, qui donnaient un peu de leur temps sur une pause café pour coacher les personnes qui devaient pitcher, les aider à affiner leur pitch, à mettre les bons éléments. Et à la fin, ils ont fait une petite soirée type after work où les managers étaient réunis et pouvaient miser sur les porteurs de projets. Ça ne s'appelait pas encore intrapreneur, mais sur des porteurs de projets. Et quand je dis miser, c'était très concret. C'est-à-dire de dire, moi, je veux subventionner à hauteur de temps sur mon budget. Et ça peut être du, quand je dis temps, c'est un montant financier ou un montant de temps. Je te donne 3 jours, 5 jours, 10 jours sur mon budget que tu peux imputer pour développer ton idée parce que je suis convaincu qu'elle va apporter quelque chose, soit à mon équipe, soit à l'entreprise. C'est un projet qui a beaucoup avancé, qui a beaucoup poussé en interne, mais qui était encore un petit peu trop lent parce qu'on était dans les débuts de toutes ces notions. Et en fait, un des fondateurs du projet a quitté Thales et continue à pousser son produit, son service, qui continue de développer et qui continue de développer en équipe. Et ce qui est très drôle, c'est que Thales, depuis maintenant 3 ans, est son client. Je ne sais pas si ça coûte plus cher de conserver donc, cette entreprise qui s'appelle CreateRock en client ou d'avoir conservé ses talents monumentaux en interne, mais maintenant, ils peuvent adresser à la fois Thales et d'autres entreprises.
C'est plus un témoignage. Moi, je travaille en collectivité territoriale et en fait, le constat, c'est qu'on nous demande de plus en plus de faire des projets, d'innover. Mais ça coûte très cher. On demande souvent à des gens qui ont d'autres responsabilités dans l'administration de mener en parallèle des projets. On se rend compte que c'est pas viable, à la fois dans l'opérationnel, de répondre à un besoin usager et en même temps de piloter un projet.
Comment ça, c'est pas viable de bosser sur ces soirées et ces week-ends? Je ne comprends pas.
Ah, nous, on est fonctionnaires, on travaille pas la nuit ni le week-end,
non,
ni rien.
Même,
pas...
même en dehors.
Et d'ailleurs, on devrait être en grève aujourd'hui. Voilà, nous, le constat, il est là, c'est que ça nous coûte trop cher, les projets. Malgré tout, il faut continuer à innover au service de nos usagers. C'est trop long. Et en plus, les gens ne s'y retrouvent pas. Et le top management dit, mais je ne comprends pas, ça n'avance pas ton projet, ça fait 3 ans que tu es dessus. Donc c'est vrai que nous, on va tester ça en se disant, voilà, est-ce que ce n'est pas une bonne idée de sortir quelqu'un? Mais par contre, ça demande un effort énorme. Parce que cette personne-là, eh ben, elle a un job en réalité. Ouais. Et donc, ça remet en question toute notre organisation. Enfin, on va tester, on témoignera l'année prochaine de ce que ça donne.
Alors, je suis très curieux de savoir ce que ça va donner, même dans 6 mois, pas forcément l'année prochaine. Un tout petit, je ne veux pas dire conseil, mais une piste de réflexion, n'hésite pas à regarder tout ce qui est méthode autour du Lean Startup, parce que c'est des méthodes qui permettent de prototyper rapidement, de faire des expérimentations et d'avoir des résultats probants pour dire ce qu'on a testé là, ça ne marche pas parce que, ou ça marche parce qu'il faut continuer à pousser dans cette direction. L'idée de sortir l'intrapreneur de l'équipe pour lui donner à plein temps sur son projet, c'est une super idée, c'est parfois difficile de l'avoir au sein des entreprises, mais c'est ce qui peut donner la légitimité et le temps pour le gérer.
C'est juste pour parler d'une expérience qu'on a réalisée au sein du site où je travaille. On est quand même 800 personnes, donc ça permet aussi d'avoir une certaine latitude. Hein. Donc pendant 6 mois, on avait pris 5 personnes qu'on avait finalement mis dans une salle avec le strict minimum vital. Et puis, ils étaient alimentés justement par des projets, des réflexions à avoir, avec finalement des méthodologies, je dirais, un peu plus agiles que les classiques. Dans le contrat, c'était que finalement, ces 5 personnes n'étaient pas remplacées à leur poste pendant les 6 mois. Donc, il fallait que les gens qui postulaient, il fallait qu'ils trouvent finalement avec leurs collègues, qu'ils s'arrangent avec leurs collègues pour qu'ils prennent en charge le travail. Et en fait, ça a très, très bien marché. Et après, maintenant, on a plutôt quelque chose d'innovation de type un peu Thales, avec finalement des gens qui viennent avec des idées et ils cherchent finalement des financiers au sein de l'entreprise pour financer leurs idées.
Merci. Je pense à un grand écueil, je vais vous partager en 15 secondes. Souvent, dans les processus d'innovation participative, d'open innovation une autre ou autre, on va capter des idées. Et après, c'est une autre équipe qui va les développer. Si un jour vous voyez ça, c'est un écueil monumental. Parce que la personne qui pousse l'idée, c'est la personne qui a la passion, qui a rencontré le problème, qui l'a creusé. Et lui dire que ça va être géré par une autre équipe, ben déjà, c'est frustrant, c'est exactement ça. Et de deux, l'autre équipe n'aura pas forcément été au contact du problème et n'aura pas les mêmes éléments. C'est tous les principes du lean management, de dire que s'il y a un problème qui arrive sur la chaîne de production, c'est celui qui touche la voiture ou le boulon ou l'élément qui peut dire stop, à mon niveau, tous les écrous ils ont tel problème, donc c'est qu'à l'endroit où les écrous sont produits, il y a peut-être un léger défaut sur la pièce. Et c'est d'avoir cette capacité de dire je rencontre le problème ou je pense qu'il y a quelque chose à faire ici et je suis en mesure, moi, de le gérer ou de le faire avancer. Je vous propose de passer au troisième thème parce que le problème des discussions de passionnés, c'est qu'on est en train de déborder sur ce qu'on s'était dit. Donc, pour ceux qui tiennent à avoir vraiment une demi-heure de pause, vous ne les aurez pas.
C'est moi, j'ai déjà passé.
OK. On va repartir sur les mêmes bases. Sur le corporate hacking, donc un terme un peu plus, encore un peu plus ardu, encore un peu plus fouillis. Et là, on vous laisse 2 ou 3 minutes pour en parler. Et n'hésitez pas à le décomposer, à vous dire que ben, il y a 2 mots. Essayez de fouiller un petit peu les 2. On vous laisse 2 minutes.
Non, c'est pas mal comme format.
On vous laisse encore une petite minute. N'hésitez pas à laisser parler l'autre.
Allez. Je laisse la def.
Je vous laisse finir votre phrase. Et j'ai entendu quelques mots très intéressants déjà sur les quelques premiers rangs. Allez. Je vais reprendre la main, désolé de vous couper. Du coup, est-ce que quelqu'un peut nous donner quelques éléments qui sont sortis dans cette discussion ?
Merci. Donc, dans la discussion qu'on a eue, un corporate hacker, c'est quelqu'un qui va utiliser donc, des contraintes existantes pour justement les retourner et en faire des avantages. Je vous prends un exemple très simple. Il y a quelques années, on avait un directeur des achats qui décidait de tous les ordinateurs qu'il fallait acheter, donc c'était tel modèle, etc. Et nous, à l'informatique, on voulait monter les machines qu'on voulait. Par contre, il n'y avait pas de contrôle sur les pièces détachées. On pouvait acheter. Donc on a acheté tous nos PC en pièces détachées.
Trouver des failles et s'en servir, s'y engouffrer.
Contourner des processus existants qui ne plaisent plus.
Contourner des processus existants qui ne plaisent plus ou qui ne sont pas assez efficients.
À l'idée de s'introduire dans des failles, comme tu disais, ou alors de contourner, nous, on a plutôt ajouté l'idée qu'il y avait aussi un moment un refus, une opposition à quelque chose, et que du coup, il y avait une notion de risque aussi associée à ça. Enfin, ça peut faire naître du coup une chance pour l'entreprise, mais aussi un risque. Et on a aussi émis l'idée qu'il y avait du coup un profil humain en termes de personnalité qui peut être lié à ça, voilà, des personnes qui n'hésiteront pas à entrer en opposition un peu, voilà.
C'est parfois ce qu'on appelle les rebelles créatifs ou les rebelles bienveillants, et ça reprend 2 mots de ce que tu disais, c'est 1, il y a une prise de risque personnelle, et 2, c'est pour l'entreprise. Ah oui, parce que je ne l'ai pas précisé, mais le corporate hacker est bienveillant. Il cherche à faire avancer son entreprise, son équipe, son groupe ou lui-même, mais toujours dans une question bénéfique pour collectif. Le but, ce n'est pas de flinguer l'entreprise.
Oui, mais je vais redire, effectivement, pour moi, le corporate hacker, c'est quelqu'un qui utilise des ressources existantes de l'entreprise pour faire des choses qui bénéficient à l'entreprise, mais qui vont souvent en opposition des chaînes décisionnelles existantes. Et moi, je travaille dans une entreprise, donc en général, nos contacts chez nos grands comptes clients, ce sont des corporate hackers. J'en ai des catalogues, c'est quoi, pas si gros que ça, mais j'en ai des catalogues.
Ça nous intéresse.
Alors, en général, ils sont bien cachés, c'est ce qu'il y a de mieux. Et pour rebondir sur ce que tu disais, plutôt que d'utiliser le terme chaîne décisionnelle, est-ce que ça te va si je remplace ça par habitude de l'entreprise ?
Non. Tu peux dire non, hein, et on a le droit d'être pas
d'accord.
Mais
je sais pas s'il y a vraiment des... C'est la notion d'habitude de l'entreprise qui me convient pas. Ou façon de faire, on va dire. Okay. Mais le côté chaîne managériale est très important. Hein. Et le côté au profit de l'entreprise est également très important. Je n'ai jamais rencontré de gens qui faisaient ça pour servir des intérêts antagonistes avec ceux de l'entreprise.
Voilà. C'est bon.
Olivier.
Moi, une fois de plus, c'est une question, c'est est-ce que le hacker, il peut délibérément refuser de respecter certaines règles de l'entreprise, mais toujours pour son bien? C'est de ne pas respecter certains processus, tout ça, parce qu'en fait, ils sont devenus contre-productifs. Et le fait de ne pas les respecter va montrer qu'en fait...
Alors, je vais être un peu taquin. En général, moi, si je ne veux pas respecter un processus, je ne demande pas forcément la permission. Je demande éventuellement pardon après, parce que je ne savais pas. Avec toute ma crédibilité et mon innocence.
En fait, l'idée que c'est au service de l'intérêt collectif, un refus au service de l'intérêt collectif, ça se rapproche carrément de la définition de la désobéissance civile dans le milieu public, quoi. Enfin, là, c'est appliqué dans le privé, du coup.
C'est ça.
Et dans le privé, mais pas que. On peut être, ça peut être privé, public, ça peut être... pour moi, c'est dans un groupe.
Oui, dans une organisation.
Quelqu'un d'autre ?
Définition un peu là.
On va faire super rapide.
Oui. Moi, j'ai plus une question. Est-ce qu'une entreprise qui ne souhaite pas se remettre en question peut accueillir des corporates hackers?
Alors, la question que je l'inverserai, moi.
Alors, je vais faire très rapide. C'est exactement ça. En fait, si elle accueille des employés, potentiellement, il y a des corporates hackers.
La question, c'est...
C'est plus une question individuelle qu'une question... Est-ce que l'entreprise autorise? Parce que si l'entreprise autorise, c'est pas forcément un corporate hacker. Enfin, pour moi, c'est pas un hacker.
Puis du coup, j'inverserai la question, c'est est-ce que du coup, un employé qui sera un peu corporate hacker, et finalement, on parle de corporate hacker, mais si on l'a mis en dernier, c'est que ça reprend les deux éléments d'avant, donc il a aussi un mindset qui va avec. Est-ce que l'employé va rester? Est-ce que les compétences vont rester dans l'entreprise très longtemps? Plutôt dans ce sens-là. Et là, il n'y a pas de question de petite entreprise, grand groupe. Enfin, moi, on a des exemples, de beaux exemples, des personnes qui avaient de très bons postes dans de très grands groupes, et qui, parce que était dans l'esprit de corporate hacking et ce fait de vouloir vraiment avancer, et de par les process, les procédures, le côté lourd, sont partis. Parce qu'en fait, ce mindset, c'est pas une question de bosser. C'est pour ça que moi, je parlais dans la définition, c'est qu'on est vraiment entre le côté entrepreneur et salarié, et qu'à un moment donné, suivant comment ça évolue et le cadre évolue, ces gens-là, en fait, sont prêts à partir, quoi.
Définition de Barbara.
Alors, on va vous proposer une définition. Le corporate hacker cherche à améliorer le système entreprise en le faisant bénéficier des évolutions et des progrès disponibles. Il introduit des pratiques et des outils pour les collaborateurs, mais il développe également de nouveaux actifs différenciants pour l'entreprise. Le genre de définition que j'ai beau avoir relu 5 fois, que j'ai toujours un petit peu du mal à appréhender. Et pour ceux qui sont comme moi, qui ont plus de facilité avec les images, je vous propose un petit exemple. On vous l'enverra après. Dans une entreprise, en fait, il y a tout ce qui est habituel, tout ce qui est culturellement fait, tout ce qui est habituel, tous les processus, tout ce qui fonctionne comme d'habitude. C'est un peu la zone blanche, c'est le règlement, c'est la culture de l'entreprise. Et puis on a tout ce qui est interdit par la loi. Je dis bien par la loi, pas par l'entreprise. C'est-à-dire que même si tuer son collègue pour faire avancer un projet peut être efficace, et que c'est socialement peut-être légèrement discutable, on va dire que ça reste interdit par la loi. Voilà, c'est mal poli, mais c'est aussi interdit par la loi. Et en fait, entre les deux, il y a toute une zone grise qui est le terrain de jeu des corporate hackers. C'est des choses qui ne sont pas interdites, qui pourraient apporter quelque chose à l'entreprise, mais qui ne sont pas habituelles. C'est extrêmement vaste et ça dépend du contexte de l'entreprise. D'une entreprise à l'autre, le terrain de jeu ne va pas du tout être le même. Que ce soit parce que les compétences ne sont pas les mêmes, que ce soit parce que les projets ne sont pas les mêmes, ou que ce soit parce que la culture hiérarchique et managériale n'est pas la même. Et concrètement, parce que c'est bien beau d'avoir des définitions, mais il y a un moment, quelques exemples, c'est bien. On vous en a donné quelques-uns au fur et à mesure. Et là, on va aboutir sur 2-3 exemples assez simples pour en parler. Et si vous voulez en parler plus longuement, on sera là après. Le premier, la perruque. Le principe de la perruque, c'est qu'on est censé travailler sur un projet, mais on commence à être efficace et on gagne un petit peu de temps. Plutôt que de dire qu'on a fini le travail plus vite, on va prendre ce temps qu'on s'est libéré et ce gain d'efficacité pour travailler sur un autre projet et le faire avancer. Tout l'intérêt de ça, c'est de pouvoir arriver... en ayant un petit peu travaillé sur un projet sans y avoir passé toutes ces soirées et ces week-ends. Ce qui est une autre option, mais ce qui n'est souvent pas tenable sur le long terme. En gros, de dire que tu as gagné du temps, enfin, tu travailles, au lieu de faire un travail en deux jours, tu le fais en une journée et demie. Donc, plutôt que de ne rien faire la demi-journée que tu as gagnée, tu vas l'octroyer sur le projet ou l'idée que tu veux développer ou que tu veux faire avancer ou ce que tu veux changer dans l'entreprise.
Dans le but de l'entreprise. Un autre exemple qu'on a pris, enfin, que j'ai appelé la viralité, mais que je trouvais intéressant, parce que c'est du vécu, c'est quelqu'un qui travaille dans une entreprise sur son projet, donc développeur, concepteur, mais par contre très sensible par tout ce qui est développement durable, et qui voulait mettre en place une action pour réduire tout ce qui était consommation de papier. Sauf que du coup, Lean Managerial, elle en va retrouver sur le côté du managerial, on lui a dit non, tu ne travailles pas là-dessus, parce que pas rentable, pas par rapport à nos produits, et en plus, il y a un service développement durable.
C'est pas ton rôle.
En gros, voilà, c'est le fait de « c'est pas ton rôle ». Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit très bien. Donc, bon, il continue à travailler sur ses activités. Par contre, il a développé une sorte de concours lui-même qu'il a un peu lancé tout seul, en interne. Concours qui a été repris. Donc, le concours, c'était du coup à celui qui allait consommer le moins de papier, comment il avait fait dans l'action pour consommer le moins de papier, dans ses impressions, ce genre de choses. Quelque chose qui, du coup, j'appelle ça viralité parce que dans l'interne, au niveau des collaborateurs, ça a été repris. Ça a même été, du coup, ça a fait la cascade. Donc, du coup, quelque chose qui a été repris. On a mis en avant les chiffres, le nombre de feuilles de papier qui ont été sauvées, et ainsi de suite. Et du coup, quand ça redescend, en général, le manager dit « Bah oui, c'est vrai, c'est quelqu'un de mon équipe qui a fait ça. C'était plutôt pas mal. On avait vu ça ensemble, c'était bien. » Voilà. Voilà. Donc, c'est pour ça que je trouve... Voilà. Donc, là, je mets en avant deux points, mais il y a ce côté viralité qui est intéressant, qui permet aussi, de quelque part, on parlait, enfin, j'aime beaucoup l'exemple du on achète les pièces détachées du PC pour le faire, à la fin, on montre que le PC était plus performant, donc on a convaincu après. La viralité, c'est aussi, finalement, si ça marche bien, s'il y a beaucoup de collaborateurs qui le prennent, ça ne demande pas beaucoup de temps, et c'est vraiment dans le but de l'entreprise, quoi.
Pour vous donner un dernier exemple, c'est un peu le principe des dominos. Vous savez, les chaînes de dominos, et qu'en poussant, ils tombent tous au fur et à mesure, si on ne s'est pas trop foré sur les ocards. On a fait la même chose au sein de différentes entreprises. En gros, il y avait quatre activateurs qui cherchaient à convaincre leur manager ou leur directeur de créer un espace assez particulier. Donc, c'était il y a un petit moment, mais c'était en gros à peu près l'équivalent d'un Fab Lab. Et pour ça, ils avaient besoin d'un petit peu de temps, d'un espace physique, et éventuellement d'un petit budget, qui n'était pas énorme, pour pouvoir acheter les bases au niveau outillage et prototypage. Et concrètement, eux, dans leur entreprise, en essayant de convaincre leur directeur, leur manager, ça ne passait pas. Parce que l'idée venait de l'interne, parce que pourquoi tu penses à ça, tu as autre chose à faire, c'est pas ton job. Il y a une équipe R&D ou innovation ou prototypage, ou il y en a d'autres qui ont essayé, mais ça ne marche pas. Bref, blocage. Et impossible d'avoir quoi que ce soit. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des déjeuners avec la personne à convaincre et les autres ou un autre activateur qui l'avait soit déjà fait, soit qui était en train de le faire au sein de son entreprise. Et le discours était complètement différent parce que, un, ça venait d'un externe, ça venait de quelqu'un qui avait déjà réussi ou qui avait déjà des bases. Et surtout, ça a permis de faire changer un peu l'état d'esprit du manager en se disant « Ah mais son idée, elle est vachement bonne, pourquoi on fait ça ? Pourquoi on ne fait pas ça dans notre entreprise ?» Parce que l'employé avait poussé il y a 6 mois, mais... ça passait moins bien, parce que l'idée ne venait pas de l'extérieur. C'est des exemples de hacks, c'est des idées qu'on peut essayer, et on en a plein d'autres. On s'est amusé à faire tout un petit catalogue une petite trentaine de hacks au sein des activateurs, qu'on vous partagera avec grand plaisir si vous le voulez. Et du coup, en guise de conclusion, on va vous présenter très rapidement l'association, et on sera là si vous voulez en parler. Quand je dis en parler, c'est que ce soit de l'association, ou des différents termes de ce qu'on a évoqué. Et on vous encourage aussi à en parler entre vous. Hein. Nous, si on n'est pas là, ce n'est pas nécessaire. Donc, c'est une association qui a été créée en 2015 par des passionnés, par des gens qui essayaient de faire bouger les choses dans leurs entreprises pour promouvoir le corporate hacking, l'entrepreneuriat et l'intelligence collective, entre autres. C'est une association qui cherche à promouvoir, mais pas que. C'est avant tout un réseau d'entraide. C'est un réseau dans lequel on va se partager toutes nos expériences pour, entre guillemets, essayer d'être plus créatifs les uns les autres, de s'inspirer des réussites et des échecs des autres, pour s'entraider. Il y avait la notion de co-développement tout à l'heure. Et c'est parfois de l'entraide ou sur l'aspect de la réflexion, ou parfois, ça peut créer des projets inter-entreprises, avec des gens, des activateurs issus d'entreprises différentes, mais comme ils se sont parlé et qu'ils avaient un problème assez similaire, ils vont pouvoir le régler, entre guillemets, dans leurs entreprises, avec une petite synergie au passage. Quand on parlait de diversité, c'est une association qui comporte à peu près, l'année dernière, qui comportait 200 membres. On n'a pas encore fait le recensement là cette année. Mais qui a à la fois des entrepreneurs, des freelances, des personnes dans des grandes entreprises, des personnes dans des petites entreprises, des personnes dans le public, des personnes dans le privé, dans beaucoup de corps de métiers différents. Et on a même des étudiants. Et le moment qui commence à être très intéressant, c'est quand des étudiants essayent de faire bouger leur administration. C'est pas mal.
Ouais, pour aller dans ce sens-là, et très rapidement, du coup, je pense qu'on l'a vu à travers les trois définitions, l'objectif dans le cadre de l'asso, c'est de pouvoir faire autrement, en tout cas en parler, échanger sur les notions de faire autrement. On va avoir le côté « we are maker », donc ça c'est quelque chose aussi auquel moi, j'apporte énormément d'importance. On parlait beaucoup d'expérimentation, on parlait de produits, de MVP, de démonstration. En général, c'est quand on avance et qu'on fait, donc après c'est dans la méthodologie, mais on parlait d'acheter des pièces pour monter un PC, c'est une fois qu'on a montré que ça fonctionne, en général on a l'adhésion. Donc on est, l'objectif c'est on est dans le faire. Et cette notion-là qu'on trouve intéressante et on trouve le diaston, c'est effectivement, je pense que chacun d'entre nous, on fait énormément d'erreurs. Dans les projets, on teste, on a beaucoup d'écueils, on en a à travers nos activités personnelles ou professionnelles.
Et c'est normal.
Et c'est normal. Et en général, et du coup, le fait de les partager, d'en discuter, de savoir ce qui a bien, pas bien marché, ça permet, un, d'aller plus vite, deux, de voir des choses qu'on ne verrait pas tout seul. Et c'est vraiment dans ce rôle-là que se positionne l'association sur l'éco-développement, c'est exactement ça, c'est d'avoir un client qui a une problématique qui ne sait plus avancer, qui a besoin d'avoir une prise de recul, et le fait d'avoir un côté multidiscipline, multi-compétences, et des personnes qui sont là, le mot bienveillance c'est un peu ça, c'est vraiment dans l'esprit de que ça réussisse pour l'autre, on est vraiment dans le fait de donner un peu de temps pour que ça marche, mais c'est aussi faire partager ses expériences, donc avoir un regard aussi un petit peu expert sur le sujet, on est vraiment dans faire avancer l'autre, et en général on en retire aussi le retour d'expérience.
Ce qu'on a tendance à dire en rigolant, c'est qu'on essaie d'être créatif et innovant dans nos erreurs. Ça veut juste dire qu'on essaie de ne pas faire celles que d'autres ont déjà fait dans l'association. Tant qu'à faire.
Et donc on a parlé de cadre au début, mais après cette photo, c'est vraiment de se dire comment on aide justement dans cette phase à essayer de regarder et de sortir du cadre. Donc moi j'aime bien cette photo parce que c'est pas facile, et d'ailleurs c'est bien matérialisé par la photo, sortir du cadre n'est pas facile, mais le fait d'avoir des regards extérieurs, on parlait de banque, de télécom ou autre, le fait d'avoir des personnes qui connaissent rien à ce métier-là, mais qui vont oser poser des questions, oser questionner et oser ce qui marche ou ce qui marche pas, en général, du coup, ça permet d'ouvrir les perspectives. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc dans l'association aujourd'hui, on a plusieurs collectifs, Paris, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Rhône-Alpes, il y en a un qui va se lancer, l'idée c'est dans le sud de la France, Côte d'Azur. Il y a un call to action après la présentation de ce matin, la volonté c'est de pouvoir en lancer un sur Caen, alors même en Normandie, parce que c'est quelque chose qu'il n'y a pas. On n'est pas loin de Paris, mais aller faire des after-work, faire des phases de co-développement à Paris, c'est pas facile. Donc il y a des personnes qui viennent de Paris et qui viendront de Paris, je pense que ça c'est assez facile. L'objectif, c'est de pouvoir lancer un groupe sur camp. Donc voilà, appel aux volontaires motivés.
C'est un groupe d'échange, c'est un groupe d'entraide, ça n'engage à rien. Et si cela vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Soit en prenant nos mails, nos téléphones juste après, soit on en parle plus tard.
Soit via le Club Agile, on met en contact aussi. Voilà.
On peut clôturer là. Si vous avez une ou deux questions, on peut. Mais on n'aimerait pas mordre plus qu'on a déjà mordu sur le temps.